Voix du Vent, le magazine de l'environnement.
Si vous nous rejoignez, nous parlons d'un scandale mondial aujourd'hui dans ces Pas du Vent, le manque de toilettes qui handicape au quotidien pas moins de 2,5 milliards de personnes, et pas uniquement dans les pays en voie de développement. La coalition Eau, qui regroupe 28 ONG internationales mobilisées sur l'accès à l'eau et à l'assainissement, a lancé une campagne cette semaine, Parlons Toilettes, pour sensibiliser le grand public et interpeller les gouvernements qui sont plus que timides sur ce sujet. Avec nous pour en parler, trois invités: Christelle Malek, coordinatrice de la coalition Eau, Michaël Siegel, chargé de plaidoyer au Secours islamique, et Jean Bosco Bazier, directeur général de Eau Vive, une ONG basée au Burkina Faso qui intervient dans une douzaine de pays africains. Jean Bosco Bazier, pourquoi, selon vous, les gouvernements, comme vous me l'avez dit en préparant cette émission, sont encore myopes sur le sujet? On l'a dit un petit peu dans la première partie, c'est pas très glamour de poser devant des toilettes. Voilà, on est un peu timide, on n'aime pas parler de ça. Mais est-ce que vous pensez que c'est un manque de prise de conscience, ou est-ce que c'est un manque de moyens?
Je pense qu'on a eu le manque de prise de conscience il y a quelques années, mais depuis bien une décennie, hein, les choses ont beaucoup bougé dans nos pays. Et malgré, quand on regarde un peu les chiffres, hein, malgré le passage de 600 millions d'habitants à 1 milliard entre 90 et 2010 de la population africaine, on a vu quand même une baisse de 32% à 22%. Des personnes qui vont encore déféquer à l'air libre. Donc il y a des progrès. Ces progrès sont certes pas
à la hauteur des enjeux.
À la hauteur donc des enjeux, mais aussi de cette croissance démographique qui est assez forte, et puis aussi une l'urbanisation très forte de l'Afrique en ce moment. Mais on peut constater qu'il y a de plus en plus une prise de conscience des dirigeants. Heureusement d'ailleurs, parce que beaucoup de pays se sont dotés de politiques nationales d'assainissement et qui prennent en compte justement cette question de l'hygiène et de l'assainissement avec des toilettes. Et nous avons vu d'ailleurs des pays qui ont pris des initiatives assez intéressantes, comme au Burkina, il y a une année ou deux, le chef de gouvernement lui-même qui a demandé à ses différents ministres, aux élus nationaux, etc., donc qui sont en ville, qui sont les décideurs, ben de regarder de près la question de l'assainissement des toilettes dans leur propre village. Et je pense que c'est un début. Il faut toujours un début à toute chose, hein, mais c'est un bon début, et je crois que il y a des progrès, parce qu'on a le Sénégal qui aujourd'hui, grâce à l'action aussi des migrants qui sont en Europe, en Amérique, etc., qui ont pu voir aussi des conditions de vie bien meilleures ici, qui ont intégré ça dans leur schéma d'investissement dans leur village. Et aujourd'hui, le Sénégal est heureusement d'ailleurs un des pays qui a vraiment fait des progrès appréciables en la matière, grâce entre autres à cet apport aussi des migrants, mais aussi à une volonté locale de changer la situation. Donc je crois que l'espoir est permis, mais il nous faut davantage de moyens, parce que il faut 80 euros, donc 50 000, pour doter une famille d'une latrine. Sur ces 80 euros, on a la moitié à peu près qui sont des coûts incompressibles, parce que c'est des coûts de matériaux, le ciment, le fer à béton, qui sont pas à la portée de la famille. Elle peut certes creuser la fosse, ramasser des agrégats, etc., mais elle ne peut pas, vu le faible niveau de revenus, surtout en zone rurale où le problème est plus d'actuel, les familles ont que très peu de revenus pour pouvoir prendre en charge toutes les questions, les besoins sociaux de base, et donc pour investir sur la construction de latrines.
Christelle Malek, vous partagez ce constat à l'échelle un peu plus internationale de pourquoi ça bloque?
Oui, effectivement, on constate que c'est vraiment un problème de volonté politique avant tout, c'est-à-dire que les États prennent des engagements. Par exemple, ils avaient pris l'engagement à Africasan, à la conférence africaine sur l'assainissement, de consacrer 0,5% de leur PIB à cette lutte pour l'accès aux toilettes.
C'était quand ça?
C'était en 2008, hein, si mes souvenirs sont bons. Or, aujourd'hui, on se rend compte qu'on est bien loin du compte. En l'occurrence, pourtant, ces engagements sont réitérés à différentes occasions. Par exemple, tous les deux ans, il y a une réunion de haut niveau qui s'appelle Sanitation and Water for All, que ça soit les bailleurs ou les États du Sud, hein, prennent des engagements. Là encore, on se rend compte que ces engagements ne sont pas suivis en fait d'actions dans les faits. Donc c'est le premier problème qu'on identifie. À côté de ce manque de volonté politique, on s'aperçoit qu'il y a un manque de sensibilisation des populations. On en a parlé tout à l'heure que
dans la première partie de l'émission, hein.
Voilà, exactement. Où effectivement les populations font pas forcément le lien entre maladie et accès aux toilettes, mais aussi il faut pas l'oublier, c'est vrai que c'est pas seulement ça, c'est aussi une question que les infrastructures sont souvent trop chères pour elles. Donc même si elles souhaitent avoir accès à ces infrastructures, elles ne peuvent pas y avoir accès.
Alors on entendait dans le micro-trottoir que vous avez fait puisque c'est vous qui l'avez réalisé devant le centre Pompidou à Paris, là où vous mobilisez les passants au cours de votre campagne, qu'il y a aujourd'hui dans le monde plus de personnes qui ont un portable que de gens qui ont accès aux toilettes. Donc après, on choisit aussi dans quoi on veut investir, non ?
Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a 6 personnes sur 7 qui ont un portable, alors que seulement un peu plus de 4 sur 7 qui a des toilettes. Cependant, ce n'est pas forcément seulement un investissement en fait des populations. C'est aussi une impulsion des gouvernements.
Et ça puis fait plus chic d'avoir un portable que d'avoir des toilettes, soyons clairs.
Ça fait aussi plus chic. Après, on se rend... effectivement, il y a un manque de sensibilisation qui est total. C'est pour ça qu'en fait, les programmes qu'on met en place sur le terrain ont toujours en fait ce volet sensibilisation à l'hygiène et à l'assainissement. Sinon, ce lien n'est pas fait. Et on se rend compte qu'en en faisant ce lien, on arrive petit à petit à inverser la situation. Mais c'est sûr qu'on se retrouve dans des situations où, dans des villages reculés, tout le monde a un portable, mais pas forcément d'eau ou pas forcément de toilettes.
Alors pourtant, il existe de nombreuses solutions techniques, hein, simples et abordables à mettre en place. Bonjour Mamissou Andria Miadj.
Oui, bonjour.
Vous êtes responsable à Madagascar du projet MEDEA. Alors MEDEA, ça veut dire Mécanisme Durable de Développement de l'Accès à l'Eau et à l'Assainissement. Vous intervenez depuis 2008 dans une vingtaine de villes réparties dans 5 régions à l'est, au centre et au sud-est de la Grande Île pour développer l'accès à des sanitaires décents. Alors tout d'abord, quelle est la situation globalement à Madagascar ?
En ce moment, donc, Madagascar, donc, comme vous savez, donc, s'est engagé à atteindre les objectifs de l'OND, donc, c'est-à-dire diminuer de moitié le nombre de personnes qui n'ont pas accès à l'assainissement jusqu'à fin 2015. Or, donc, vu la situation, donc, c'est sûr, en fait, on n'atteindra pas cet objectif. Et comme chiffre actuel, donc, il n'y a qu'un tiers de la population qui a accès à l'assainissement. Et c'est plus grave encore, il n'y a que 14% de la population qui dispose de l'assainissement amélioré. Donc c'est pour vous dire qu'on a un problème donc sur cette thématique assainissement.
Et pour vous, c'est crucial parce que derrière, c'est un véritable enjeu économique pour le pays.
Tout à fait. Donc si on valorise donc, la perte par rapport à ce problème, chaque année, on estime donc une perte de 60 millions d'euros par an par rapport à l'économie malgache, 1% du PIB national.
Mais comment on fait le lien ? Comment vous arrivez à ces chiffres ?
En fait, c'est suite à l'analyse de la Banque mondiale donc, qui évalue la situation et les différentes dépenses donc, liées aux problèmes de santé publique. Ce sont les experts de la Banque mondiale donc, qui sortent ces chiffres et placent Madagascar dans les différentes échelles de pays dans le monde.
Oui, donc en effet, il y a des enjeux de santé publique et puis il y a aussi le fait que ça crée des maladies et ça paralyse hein, beaucoup, donc ça crée de l'absentéisme, on l'a dit, à l'école, mais aussi au travail. Alors votre action pour essayer de changer un peu la donne consiste à accompagner donc la mise en place de magasins de toilettes. En gros, vous formez des gens à la conception des toilettes, ensuite ils s'installent. Vous avez déjà créé 16 magasins qui ont vendu pour l'instant 1200 toilettes, ça touche 1000 personnes, mais l'objectif c'est de changer le quotidien. Quotidien de 30 000 personnes. Alors, comment est-ce que sont fabriquées ces toilettes rapidement ?
Nous travaillons donc comme une sorte de franchise. Donc, ce sera une collaboration avec des opérateurs privés locaux donc, qui vont porter la franchise. Donc, c'est un magasin de Sanimarché qui vend des toilettes produites par le projet avec une technologie répondant à la norme, mais pour un coût de production moindre. Je vous donne un exemple de coût. Donc, la toilette sèche qui est vendue à de l'ordre de 30 euros et un autre type qui est le microfosseptique qui est vendu à 60 euros. Donc, sachant que le coût d'une toilette fosseptique classique monte dans les 1 200 000 l'arrière, c'est-à-dire dans les 400 euros.
Donc, du coup, on voit bien que vous avez réussi à faire baisser les coûts avec finalement des solutions assez simples et ça marche. Votre ambition, je le disais, c'est de toucher 30 000 personnes. Vous pensez que vous allez y arriver ?
Oui. Oui, on va dans le bon sens. Donc, le chiffre, c'est atteignable. Mais il faut en fait tenir compte aussi du problème en fait, économique, surtout la capacité à payer de la population. En ce moment, comme vous avez, donc, le chiffre donne que 80% des malgaches donc, sont considérés comme pauvres. Donc là, c'est vraiment un frein pour avoir accès aux toilettes hygiéniques. Donc même si on a réduit le coût, il faut travailler sur un mécanisme de subventionnement pour pouvoir accéder à la couche inférieure de la population malgache.
Merci beaucoup, Mamissou Andria Miadj, pour toutes ces informations. Jean Bosco Bazier, que pensez-vous de cette solution de mettre en place des magasins de toilettes, des systèmes de franchise? Ça existe en Afrique?
Mais ça va exister, puisque grâce à la coopération Sud-Sud, Sani Marché arrive au Burkina dans le cadre d'un programme que nous venons de démarrer au mois de juillet sur une dizaine de communes, et avec justement les collègues de Madagascar qui vont pouvoir transférer donc ce pilote de marché donc de l'assainissement dans des villages au Burkina Faso. Donc vous voyez, il y a des solutions qui s'échangent aussi entre pays africains, et c'est vraiment une coïncidence qu'on soit sur le plateau ensemble pour parler de ça. Mais on en a besoin, puisque si on suscite la demande, il faut pouvoir aussi répondre au niveau local par des gens qui savent, qui peuvent offrir les services et à des conditions aussi accessibles à la bourse donc des familles au niveau local. C'est pour ça que tous nos projets, nos programmes aujourd'hui prennent en compte justement l'émergence aussi, de susciter, d'encadrer, d'accompagner l'émergence d'opérateurs locaux, des villageois qui apprennent à faire des toilettes dans les meilleures conditions de durabilité pour pouvoir les offrir donc à la population, et sur place pour aussi pouvoir assurer l'entretien courant en cas de besoin, parce qu'à terme il faudrait aussi faire des vidanges et ensuite reconstruire d'autres pour d'autres familles, de nouvelles familles.
On voit bien que c'est toute une filière économique.
C'est toute une filière et qui peut constituer aussi une activité bien lucrative. C'est des métiers qui commencent à se développer dans les villages, dans les zones rurales d'Afrique. Et c'est tant mieux pour les maçons et les tâcherons locaux.
Michael Siegel, même question pour votre organisation, le Secours islamique de France. Ce sont des modèles qui existent ou vous travaillez plutôt avec d'autres type de structure?
Écoutez, nous, pour rebondir sur le fait que c'est un avantage économique, on a estimé que chaque dollar investi dans la construction de la latrine rapporterait 5,5 dollars. Donc aussi, ça c'est un aspect qui est pas assez reconnu par les États. Et donc du coup, nous, on essaye de faire de mieux à notre échelle, donc dans des petits villages au Tchad, au Pakistan, au Maroc. Mais c'est vrai qu'il y a un manque d'action, de plans nationaux et de financements nationaux pour accompagner notre action.
En tout cas, on a bien compris, Christelle Malek, ce sont pas les solutions qu'il faut défaut.
Non, exactement. C'est vrai qu'on a parlé des financements, on a parlé des moyens techniques. Toutes ces solutions sont là. Maintenant, il faut les mettre en œuvre. C'est aussi ce qu'on demande dans la campagne Parlons Toilettes, en l'occurrence. C'est aussi maintenant passer à l'action, parce qu'on a conscience de toutes ces solutions. Et puis, dans les solutions, c'est aussi en parler, comme on le fait aujourd'hui, parce que tout ça n'est possible que si ce problème est mis sur le devant de la scène et qu'il y a une vraie prise de conscience politique qui est faite à ce niveau-là.
Des questions, des témoignages, des idées? Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
I lost my way to Albert Villa. Can't help.
écoutez, c'est pas du vent sur RFI. Nous parlons du manque de l'accès aux toilettes dans le monde, un tabou qu'il est urgent de briser, surtout que les conséquences sanitaires et sociales sont catastrophiques. On a beaucoup parlé des conséquences sanitaires pour l'instant dans l'émission, mais il y a aussi, je le disais, donc ces conséquences sociales, notamment vis-à-vis des femmes. Par exemple, dans un pays comme l'Inde, qui est un pays très touché, hein, Christelle Malek, par le phénomène.
Oui, effectivement, en fait, on se souvient qu'il y a encore quelques mois, il y a une triste histoire qui a défrayé la chronique en Inde, en l'occurrence deux petites filles qui étaient sorties de leur village à la tombée de la nuit pour parcourir plusieurs kilomètres et aller faire leurs besoins loin du village, à l'abri des regards, et qui se sont faites violer et tuer sur le chemin. Et ça rappelle tristement que les femmes sont particulièrement touchées par ce manque d'accès aux toilettes. On l'a vu tout à l'heure avec le reportage en fait sur le Maroc, les filles sont particulièrement touchées en milieu scolaire et parfois sont obligées d'abandonner l'école à l'âge de la puberté. Mais en dehors de ça, il y a une femme sur trois qui est contrainte de déféquer en plein air et donc qui peut être soumise en fait aux agressions sexuelles ou des personnes et qui sont vraiment touchées dans leur dignité. Donc c'est vraiment un problème qui est récurrent aujourd'hui.
En Inde et en Afrique, hein, Jean Bosco Vasier, c'est partout pareil.
Oui, bien sûr, c'est sûr que tout le monde est exposé dès qu'on n'a pas des toilettes à la maison. Il faut se rendre dans la nature, et en général on recherche toujours là où on a des arbustes ou des zones plus ou moins cachées pour pouvoir le faire. Et donc on est exposé aussi, pas uniquement aux attaques, mais aussi aux morsures de serpents, de scorpions, etc. Donc on a tous ces autres problèmes aussi qui se greffent au drame que vivent les gens, que vivent ces personnes qui n'ont pas de toilettes à portée de main.
Michael Siegel, vous le constatez aussi dans les 20 pays où vous intervenez ?
En effet, on le constate, hein, c'est le même constat. Les personnes attendent la nuit pour faire leurs besoins parce qu'elles ne veulent pas être exposées au regard des autres. Donc c'est vraiment le manque d'accès aux toilettes, c'est aussi une question de dignité. Et c'était aussi le message de notre campagne Parlons Toilettes, puisque 1 milliard de personnes sont obligées de déféquer à l'air libre, elles sont exposées au regard des autres, c'est une atteinte à leur dignité, à leur intimité. Et donc c'est pour ça qu'on a demandé aux Parisiens, mercredi, le jour de la Journée mondiale des toilettes, si eux, ils seraient capables de faire la même chose. Bien sûr que non.
Bien sûr que non. Pourtant, c'est vrai que les solutions sont assez simples, hein, même dans des milieux extrêmes. Bonjour Clément Philippe.
Bonjour.
Alors, vous êtes en ligne depuis Oulan-Bator, hein, la capitale de la Mongolie, ce vaste pays coincé entre la Russie et la Chine qui n'abrite que 3 millions d'habitants et qui connaît depuis quelques années une croissance économique parmi les plus élevées du monde, hein, grâce à ses ressources minières. Mais la population en profite de manière très contrastée. Voilà pourquoi Action contre la faim y est installée depuis 2001. Et depuis 2009, vous travaillez sur l'eau et l'assainissement dans le quartier des yourtes qui entoure Oulan-Bator. Alors, expliquez-nous ce que sont ces quartiers.
Il y a 27% de la population mongole qui vit sous le seuil de la pauvreté en Mongolie. L'exode rural est extrêmement élevé en Mongolie et chaque année il y a 20 000 personnes qui viennent des campagnes jusqu'en ville. Ces personnes viennent en périphérie, donc dans les quartiers des yourtes.
Alors les yourtes, pour expliquer aux auditeurs qui n'ont jamais entendu ce mot, hein, ça peut en concerner certains, sont des espèces de grosses tentes. Voilà,
des grosses tentes avec du feutre isolé. L'intérêt d'ACF en Mongolie, c'est aussi le climat, extrêmement froid. Une des personnes qui évoquait l'accès des toilettes avec le danger des serpents, etc. Ici, c'est surtout le danger du froid. En Mongolie, la capitale, c'est la ville la plus froide au monde. Et la moyenne annuelle est de moins 2 degrés, pour juste vous donner une idée, quoi.
Oui, c'est la moyenne annuelle, mais ça veut dire que l'hiver, il peut faire jusqu'à moins 40.
Oui, voilà, il fait moins 40, moins 30. Là, on est donc en novembre, il fait moins 15. Et en journée, il doit faire moins 5 ou moins 10.
Bon, ben on ne vous envie pas. Alors expliquez-nous rapidement ce que vous faites du coup pour aider ces populations à avoir des toilettes.
On travaille dans les quartiers des yourtes où 65% de la population vit dans ces quartiers et ont des latrines sèches. Donc ils ont des latrines avec un trou et à chaque fois que ce se remplit, ils sont obligés de creuser un autre trou. Donc ça affecte directement la santé publique et l'environnement.
Enfin, c'est pas ce qu'on appelle des latrines sèches, hein. Ça, pour le coup, sont des trous sauvages, quoi. Et oui, vous, justement, vous mettez à leur disposition des latrines sèches.
Voilà, et on met à disposition des latrines sèches. Il y a un plan, le gouvernement a un plan d'urbanisation qui va jusqu'en 2030, où ils veulent donc construire des immeubles et donner l'accès aux sanitaires à toute la population. 2030, c'est encore loin et il y a des solutions alternatives écologiques et peu coûteuses. Donc nous, on a depuis 2009 développé un projet de toilette qu'on appelle EcoSan. C'est un projet pilote où on donne des toilettes sèches et il y a un partenaire local, une entreprise qui vient chaque 3 mois faire la vidange, prendre les défections humaines et les amener dans un site de compostage.
L'objectif, c'est donc de récupérer ces excréments et d'en faire du compost. Alors le compost, ça sert évidemment à refertiliser les sols. Est-ce que ça marche? Est-ce que vous en fabriquez aujourd'hui, même par moins 40 degrés?
Alors, on en fabrique, ça marche. Techniquement, ça a été prouvé, donc ça, c'était une réussite. On peut techniquement le faire pendant l'hiver, mais c'est onéreux. Nous, on a préféré stocker toute la matière l'hiver et faire le compost l'été. La technique marche. Par contre, il y a un problème de normes. Les standards sanitaires de production ne sont pas encore approuvés. Donc, on ne peut pas vendre ce compost.
Oui, mais ça, c'est une histoire de quelques mois. Et la Banque mondiale s'intéresse de près à votre projet pilote.
Voilà, donc c'est la Banque mondiale, plus particulièrement aussi, c'est la Banque asiatique de développement qui ont des projets sur plusieurs villes. Donc, la deuxième ville, la plus grosse ville de Mongolie au nord, et veulent faire 3 ou 4 000 latrines pour les pièces dans les quartiers périphériques de Dharan, une ville au nord de la Mongolie.
Voilà, donc c'est en cours de projet. Merci Clément Philippe pour toutes ces précisions.
Merci bien.
Jean Bosco Bazier, dans les pays africains où vous intervenez, il fait plutôt plus 40 degrés hein, que moins 40. Alors est-ce que le type de projet que Clément Philippe vient nous présenter est aussi implanté? Moi j'en ai déjà rencontré, donc je connais un petit peu la réponse. C'est vrai qu'il y a cette tentative aussi dans certains pays d'Afrique de récupérer les déjections pour faire du compost pour l'agriculture. Est-ce que ça marche?
Oui, il y a eu, c'est vrai que le modèle EcoSan a été également testé dans les pays, mais je pense que le type de latrine qui est aujourd'hui le plus développé, c'est la latrine de type VIP, la fosse consolidée avec une dalle et une clôture, qu'elle soit en matériaux locaux ou en matériaux définitif, mais bref, il y a aussi des questions de coût qui sont pas du tout les mêmes. Hein. L'échelle de coût n'est pas le même. Une latrine EcoSan est bien plus coûteuse, voilà, que la latrine. Et il faut aller vite. Il faut faire des milliers de latrines. Hein. Nous, on a au cours des 3 dernières années, c'est 20 000 latrines. C'était des projets de 20 000 latrines et il faut le faire parce que les objectifs du millénaire, c'est demain, 2015. Et puis en plus, le problème, c'est de l'urgence aujourd'hui de doter les familles de latrines. La question du recyclage donc
pourtant, on se dit si on peut faire d'une pierre deux coups, c'est quand même pas mal.
D'accord, mais pour l'instant, donnons la chance à ces familles de briser le désastre dans lequel ils sont aujourd'hui, en leur offrant juste une petite latrine et puis on verra.
Alors Christelle Malek, je rappelle que l'accès à l'eau et à l'assainissement a quand même été reconnu comme un droit de l'homme, malgré tout ce qu'on a dit dans cette émission, par les Nations Unies en 2010. Alors ça semble pas avoir servi à grand chose, et sur ces objectifs du millénaire pour le développement, donc d'ici 2015, c'est bientôt, on n'est pas du tout en passe de les atteindre.
Alors effectivement, en 2000, lorsqu'on a adopté les objectifs du millénaire pour le développement, on avait pour objectif de diminuer de moitié le nombre de personnes qui n'avaient pas accès aux toilettes d'ici 2015. Donc c'est-à-dire qu'on visait 75% de la population mondiale qui avait des toilettes. Aujourd'hui, on est à 64%. Et dans quelques mois, on arrive à 2015, donc on est très 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 loin du compte. En 2010, c'est vrai que l'accès à l'eau potable et à l'assainissement a été reconnu comme un droit de l'homme. Ça a quand même permis d'accélérer les choses, de mettre cette problématique sur le devant de la scène et de pousser les États africains ou autres à adopter des plans nationaux pour l'eau et l'assainissement. Donc ça a quand même permis d'accélérer ça.
Après,
et de débloquer
des
plus
textes,
de financement.
C'est toujours pareil, il faut passer à la
voilà,
phase
il faut passer à l'action.
C'est souvent plus compliqué.
Voilà, mais ça a permis quand même d'accélérer l'action. Après, c'est sûr qu'on est encore très 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 loin et qu'on va bientôt adopter les objectifs du développement durable, donc qui sera le plan de développement 2015-2030, qui prennent la suite de ces objectifs du millénaire pour le développement. Et maintenant, tout l'enjeu, c'est d'apporter l'accès aux toilettes, à l'assainissement, à tout le monde. Donc, pas seulement réduire de moitié la population qui n'a pas accès aux toilettes, mais maintenant, permettre à chacun de pouvoir avoir un accès à un assainissement adéquat.
Et l'un des objectifs de la campagne, c'est de faire pression justement sur le gouvernement français pour débloquer des fonds pour cela, hein, Michael Siegel.
Oui, en effet, donc on a deux demandes de campagne en fait. C'est que la France soutienne officiellement un objectif de développement durable sur l'eau et l'assainissement, mais pour cela, il faut aussi se donner des moyens financiers. Et donc on demande à la France d'octroyer 40 millions d'euros supplémentaires de subventions et les cibler en priorité vers les pays les plus pauvres, les pays les moins avancés, notamment en Afrique, et vers les populations les plus démunies. Il faut savoir aussi qu'il y a des très fortes disparités entre les milieux urbains et les milieux ruraux.
Alors, il y a une pétition qui est en ligne.
Effectivement, il y a une pétition qui est en ligne sur parlonstoilettes.org. Donc, on invite chacun à aller la signer. Sur ce site, il y a aussi beaucoup de contenu sur la question du manque de toilettes. Mais aujourd'hui, ce qui compte, c'est effectivement de se joindre à cette pétition pour demander au gouvernement d'agir.
On mettra de toute façon tous les liens vers cette pétition, vers vos ONG sur la page internet de l'émission www.rfi.fr. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci, merci à Zakaria Bouyaï pour la réalisation et la mise en onde. Pour réagir au témoigner, n'hésitez pas à nous écrire, c'estpasduvent@rfi.fr, ou à nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, hashtag c'estpasduvent. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve samedi prochain, même planète, même heure.